La stratification sociale, c'est, ou du moins les théories de la stratification sociale, c'est le vocabulaire, les concepts par lesquels les sociologues ou les spécialistes de sciences sociales en général qualifient les positions sociales des individus, des familles, des groupes, enfin des entités qu'ils considèrent comme pertinentes comme en tant qu'acteurs sociaux. Après, le problème de la mobilité sociale, c'est celui de l'évolution dans le temps de ces entités. L'exemple classique, c'est celui de la mobilité intergénérationnelle, donc d'une génération à l'autre. On considère par exemple un individu à son jeune âge et on qualifie sa position sociale par la profession de son père, typiquement. On regarde ensuite ce même individu, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années après, quelle est sa position sociale, typiquement quelle est sa profession. Et le problème de la mobilité sociale, c'est celui qui consiste à se demander si cet individu est en ascension sociale, en déclin social, ou s'il a atteint une position qu'il n'est pas possible de considérer comme plus haute ou plus basse que celle qu'il avait à son jeune âge. En fait, aujourd'hui, les sociologues utilisent pas mal de systèmes différents pour qualifier les positions sociales, leur évolution, etc. Mais ils ne prennent pas souvent la peine de justifier le système de concepts pour lequel ils optent par rapport aux autres systèmes de concepts disponibles. C'est un peu comme s'il y avait différentes théories qui ont toutes leur intérêt, mais qui évoluent un peu dans leur direction propre, assez indépendamment les unes des autres, et elles ne discutent pas vraiment. À partir du moment où on avance des positions théoriques, même empiriques, enfin, forcément c'est inévitablement polémique, j'ai cherché à atténuer ça. L'ouvrage commence par un aperçu historique qui se veut exhaustif. Alors, on n'y arrive jamais totalement à l'exhaustivité, mais j'utilise notamment des techniques d'objectivation qui permettent d'arriver à une certaine exhaustivité. Donc un passage en vue historique des théories de la stratification de la mobilité sociale qui ont traversé la sociologie anglophone et francophone. Alors, il y a d'autres langues comme l'allemand, d'autres disciplines comme l'anthropologie, que je mentionne que ponctuellement, quand elles ont directement influencé la sociologie anglophone ou francophone. C'est à partir de ce passage en vue historique, qui a visé l'exhaustivité, que je peux retracer une série d'impensés récurrents dans les théories de la stratification sociale qui s'appuient sur cette première partie historique. Il y a une chose qu'il faut noter, la première chose qui apparaît de ce passage en vue historique, je passe l'essentiel des détails, mais c'est un clivage assez fort entre deux courants qui dialoguent assez peu l'un et l'autre, vraiment très peu. C'est un courant très anglophone, très très axé sur des enquêtes, sur des analyses de type statistique et souvent exclusivement statistique. Courant qui est assez dominant, qu'on peut associer à des noms comme Nathalie Rogoff, Otis Dudley Duncan ou John Goldthorpe. Il y a un autre courant, assez indépendant, qui est beaucoup moins statistique, qui est plus attaché à la variété des méthodes, en fait, en particulier ethnographique, biographique. Ce deuxième courant, il est moins anglophone puisque c'est à partir d'initiatives venues de France qu'il a acquis sa consistance. Et on peut lui associer des noms comme Daniel Berthaud, Pierre Bourdieu ou Anselm Strauss. Je peux détailler un exemple d'un de ces impensés récurrents qui parcourt les théories de la stratification sociale et de la mobilité sociale. C'est celui de l'essentialisation des catégories d'analyse, essentialisation des indicateurs de statut social. Essentialiser les statuts sociaux, c'est quoi? C'est confondre les indicateurs statistiques qui sont fréquemment utilisés, par exemple, typiquement le code administratif des cadres et professions intellectuelles supérieures, confondre ça avec une réalité sociale consistante. Alors d'où ça vient cette essentialisation des catégories d'analyse? Une des sources, c'est la banalisation d'un outil très puissant, un outil statistique très puissant, qui est la table de mobilité sociale. Alors là, il apparaît une table de mobilité sociale tiré d'un article de Daniel Berthaud, mais la table de mobilité, ça, Pitirim Sorokin en faisait dès les années 20, enfin, on en trouve même à la fin du 19e siècle, la table de mobilité sociale a commencé à se banaliser à partir de la fin des années 40, et c'est devenu pratiquement, surtout pour le courant anglophone statisticien de l'étude de la mobilité sociale, c'est devenu à peu près le seul outil d'objectivation. Et aujourd'hui encore, on l'utilise encore beaucoup. Oui, qu'est-ce que c'est une table de mobilité sociale? C'est un tableau croisé, tout simplement, un tableau statistique qui croise... pour donner le cas de la mobilité intergénérationnelle, qui croise la profession d'un individu avec celle de son père. Et le but, c'est de compter le nombre d'individus qui sont mobiles. Or, pour pouvoir compter le nombre d'individus mobiles, il faut qu'il y ait des individus immobiles. Et pour qu'il y ait des individus immobiles, il faut qu'il y ait les mêmes catégories pour le père et pour le fils, parce qu'immobile, ça veut dire dans la même catégorie que son père. Puisqu'il faut le même système de catégorie pour le père et pour le fils, quand à partir de la fin des années 40, les sociologues sont mis à utiliser de plus en plus routinière, on peut dire, cet outil, ils se sont mis à plus trop remettre en question les catégories, à focaliser leur attention, leur effort, leur énergie à l'analyse statistique des tables, sans trop questionner les catégories. Et notamment, sans poser le problème de la comparabilité dans le temps, dans l'espace, de ces catégories. Et du coup, il y a des systèmes un peu plus pertinents que les autres, en 3, 5, 7 catégories, qui se sont peu à peu routinisées. Hein. Typiquement, on pense aux usages les plus fréquents du code des PCS en France. On pense à ce qu'on appelle le schéma EGP que Ericsson, Goldthorpe et Porto Carrero ont mis en place il y a une quarantaine d'années en Grande-Bretagne. Et peu à peu, avec l'usage des termes comme cadre, comme ouvrier, comme service class, ou même comme salarié touchant de 1 000 à 2 000 euros par mois, se sont routinisés, banalisés. On s'est mis à penser qu'ils avaient une signification univoque, stable, alors qu'en fait, c'est que des indicateurs. Et en tant qu'indicateur, leur signification, leur stabilité, leur pertinence, leur qualité évoluent dans le temps. Parmi les autres impensés que j'ai identifiés, il y en a qui sont assez simples. Par exemple, le fait de réduire les positions sociales à une seule de leurs dimensions, typiquement professionnelle, ou ce réflexe qu'ont pas mal de sociologues à vouloir prendre un point de vue englobant sur la société, à vouloir représenter la société en miniature, typiquement par des tables de mobilité. Ou des concepts un peu routinisés qu'on emploie sans plus vraiment forcément savoir pourquoi, des concepts comme classe moyenne, classe populaire, bourgeoisie. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas pertinents, mais je dis qu'on ne réinterroge pas forcément la pertinence qu'il y a à en parler. Autre exemple, exemple plus général, la soumission à des préoccupations d'action, typiquement politiques ou militantes, plus que de connaissances. Des petits résultats, il y en a beaucoup dans l'ouvrage. Finalement, s'il y en a un qu'il faut retenir ici, c'est l'important travail de clarification qui reste à faire. Parce que la sociologie, elle foisonne de concepts qu'il n'est pas vraiment facile de distinguer les uns des autres. Par exemple, groupe et classe sociale, c'est quoi la différence? Ou champ et espace social. En fait, si on ne sait pas la différence, c'est parce que les sociologues n'ont pas fait le travail d'être clairs sur les concepts qu'ils emploient, sur leur relation avec les dispositifs empiriques qui permettent de les saisir. Ce travail, il reste à faire. Et ça, c'est une des choses que l'ouvrage met en lumière. Alors, je m'arrête sur certaines solutions théoriques qui paraissent un peu plus, on va dire, prometteuses que d'autres. Par exemple, le concept de capital, il apparaît, le concept de capital au sens où Pierre Bourdieu l'a constamment retravaillé, il apparaît comme particulièrement fécond. Alors, j'ai essayé de le clarifier un peu, de le nettoyer un peu, en regardant précisément comment sa signification a évolué dans l'œuvre de Bourdieu et dans les usages qu'on en a fait par la suite. Voilà, c'est un exemple que je donne, comment on peut saisir d'un concept et faire en sorte qu'il résiste encore mieux aux biais, à l'ensemble des biais récurrents qui ont été répertoriés. Une des intentions que j'avais aussi par cet ouvrage, c'était de promouvoir une certaine conception de ce qu'est le travail scientifique, qui est une conception du travail scientifique par un double mouvement, le mouvement à la fois de critique empirique des théories, mais aussi de théorisation des données empiriques construites.